La parole de notre Seigneur dans le livre de Galates. Je vais faire une confession. J'avais un peu planifié dans le calendrier que le texte que nous allons lire maintenant tombe aujourd'hui, parce que vous allez voir qu'il n'est pas sans lien avec la thématique de Pâques. Alors nous allons donc poursuivre notre lecture dans l'épître de Paul aux Galates. Je rappelle que les Galates, il est possible que c'était d'anciens Gaulois, donc ils aient un lien avec la France ici. C'était des expatriés gaulois qui avaient fait des colonies en Asie mineure. Mais enfin, ceux à qui il s'adresse, c'est à l'Église universelle, à ceux qui étaient à Galate. Et combien nous pouvons nous sentir interpellés par ce que Paul dit ici. Donc nous allons lire la parole de notre Dieu. Pour la lecture de la parole de Dieu, je vous invite à nous lever. Nous faisons lecture donc dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 2. Nous lisons versets 15 à 21. « Nous, dit Paul, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les nations. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus, nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Mais si, en cherchant à être justifiés par Christ, nous étions aussi trouvés pécheurs, Christ serait donc serviteur du péché? Certes, non. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même transgresseur. En effet, par la loi, moi-même, je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci d'avoir conduit par ton esprit les prophètes de l'Ancien Testament qui ont certes relaté les faits dans l'histoire, qui ont apporté même de la poésie dans les prières, qui ont annoncé dans les prophéties. Et Seigneur, nous voyons que tout dans l'Ancien Testament nous mène au jour d'aujourd'hui. Tout dans l'Ancien Testament nous donne de pointer vers l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Et tout nous mène à voir que l'Évangile est dans la personne de Jésus-Christ qui est venu, qui est mort et qui est ressuscité. Merci Seigneur aussi pour les auteurs du Nouveau Testament sur lequel tout le message repose sur cette réalité que tu es venu, que tu es mort et que tu es ressuscité. Merci parce qu'il nous donne ainsi, en unité avec toute l'Écriture, l'assise de notre foi. Seigneur, merci pour l'œuvre de l'Esprit-Saint qui nous a donné ainsi tout ce qui était nécessaire pour asseoir notre foi en toi. Merci parce que, Seigneur, ce même Saint-Esprit est là présent au milieu de nous. Il est là dans nos cœurs. Il est là dans nos pensées. Et notre prière, Seigneur, c'est que ce même Esprit-Saint qui a inspiré les prophètes, les apôtres, les auteurs bibliques, nous parle aujourd'hui. Nous donne de découvrir ta parole, nous donne de la voir s'ouvrir, prendre racine et porter du fruit en chacune et chacun de nous. Parce que Seigneur, ta parole est la vérité. Alors nous voulons nous joindre à ta prière pour dire oui, sanctifie-nous par la vérité de ta parole. Seigneur, nos vies sont tellement remplies de vanité comme l'herbe et la fleur des champs, mais ta parole demeure éternellement. Alors Seigneur, nous voulons nous joindre aussi à la prière du jeune Samuel. Parle, Seigneur. Oh, parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Amen. Il est ressuscité.
Il est ressuscité.
Je vous invite à reprendre place. Tout l'Évangile, et c'est la thématique de cet épître de Paul aux Galates, tout l'Évangile est concentré sur ce jour de Pâques que nous célébrons aujourd'hui. Est-ce qu'on réalise ça? Est-ce qu'on réalise seulement que tout l'Évangile, et quand je dis tout l'Évangile, je suis en train de dire que dès les premières paroles de l'Ancien Testament jusqu'aux dernières paroles du Nouveau Testament, tout l'Évangile se retrouve concentré dans ce que nous sommes en train de vivre ce matin. Est-ce que nous réalisons cela? Tout l'Évangile? Oui. tout l'Évangile. Alors la question ce matin, c'est croyons-nous en cet Évangile? Croyons-nous en cet Évangile? Croyons-nous l'Évangile? Et comment voir si ce que je crois est vraiment compris? C'est une vraie question. Parce que selon ce que dit l'apôtre Paul dans cet extrait et dans cet épître, d'ailleurs aux Galates, eh bien il semble assez clair qu'il y avait des chrétiennes et des chrétiens en Galatie qui n'avaient pas compris ce que veut dire Pâques, qui n'avaient pas compris ce que nous vivons aujourd'hui même. Je cite en effet au début de cette épître Paul qui dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ » pour passer à un autre évangile. Alors ce matin, dans un premier temps, j'aimerais vous proposer de voir en quoi ce texte parle de l'évangile, en quoi il parle de Pâques, en quoi nous avons là en quoi il résume l'évangile, puis dans un deuxième et troisième temps, beaucoup plus bref, nous regarderons en quoi les Galates ont peut-être manqué le coche, et de nous questionner, et nous, dans tout ça. Alors, que dit le texte ? En quoi il résume l'Évangile? En quoi il exprime tout le sens de Pâques? Eh bien, regardons le verset 20. Je ne sais pas s'il est affiché ici, comme ça on va rester la plupart du temps sur ce verset 20, donc on peut laisser la diapo ici. Eh bien, ce verset 20, Paul dit « Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Pâques, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie, qui a été crucifié, qui est mort et au troisième jour est ressuscité. Le personnage clé, bien sûr, est Jésus-Christ. C'est un fait de l'histoire. C'est un fait central à toute l'histoire de la rédemption. C'est le fait central de la rédemption. Encore une fois, telle qu'elle est annoncée de le début jusqu'à la fin. Il est annoncé, tout pointe vers ce moment et vers ce fait dans l'Ancien Testament, et après tout repose sur ce fait. Jésus-Christ est mort pour nos péchés, bien plus, il est ressuscité. Oui, il est ressuscité.
Il est vraiment ressuscité.
Ça, c'est pour nous tenir réveillés pendant le message ici. Et Paul dit, « Je suis crucifié avec Christ. » On connaît ces textes, hein, mais... Pensons-y un instant. Imaginons que c'est la première fois qu'on entend dire ça, entendre Paul dire « Je suis crucifié avec Christ ». Paul, crucifié, mort, est-il un des deux larrons? On a peut-être manqué un texte d'évangile ici. Fait-il partie des trois qui étaient crucifiés ici? Non, nous savons très bien que ce n'est pas le cas, puisque Paul est en train d'écrire cette épître ici. Donc, que veut dire ce que dit Paul ici, qu'il soit crucifié avec Christ? Si ce langage a sa partie de figurer, alors quelle est la signification de la crucifixion de Jésus à laquelle Paul se réfère quand il déclare être crucifié avec Christ? Qu'on soit clair, la personne de Jésus le Christ et le fait qu'il a été crucifié relèvent d'une réalité totalement unique. Personne n'a pu, ne peut, et ne pourra jamais occuper cette place totalement exceptionnelle que Jésus occupe sur cette croix. Personne ne peut, ne pourra et n'a jamais pu revendiquer être le Fils de Dieu, la parole incarnée, vrai Dieu et vrai homme. Personne ne peut revendiquer être ultimement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, celui qui est sans faute, sans tache, sans défaut. Personne ne peut dire que son sacrifice peut donner totale et véritable satisfaction au seul et unique sacrifice capable d'apporter le pardon. Personne ne peut faire ça, même pas Paul. Encore moins nous, ici présents ce matin. Paul ne dit pas être crucifié comme Christ l'a été, mais il dit être crucifié avec lui. Il exprime ici un changement radical de paradigme. Puisqu'il dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alors j'ai mon lot de personnes que je cite régulièrement. Évidemment, je suis retourné piocher et là je tombe sur John Piper qui dit à ce sujet et qui dit entre autres en citant dans le même livre de Galates, mais un peu plus tard au chapitre 5 et au verset 24, Et il dit ceci, « Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Et John Piper de dire, en lien avec le texte du verset 20 ici, « Ceux qui meurent dans l'union avec Christ sont nos passions, sont ces désirs destructeurs déshonorants Christ. » Le chrétien a de nouveaux désirs qui sont maintenant pour Christ. Et en fait, ce qui se passe ici, c'est que ce sont les désirs du Christ qui commencent à régner en nous. Et donc Paul, en fait, exprime très bien ce que Jésus nous apprend à prier. Que nous apprend Jésus à prier? Comment devons-nous apprendre à prier quand il dit « que ta volonté soit faite » Cette façon de dire « que ta volonté soit faite dans ma vie ». Paul, en disant « je suis crucifié avec Christ », est en train de dire « à partir de maintenant, ta volonté et non plus la mienne, ta volonté qu'elle soit faite dans ma vie ». De même que ton règne vienne, Paul est en train de dire « en fait, je ne suis plus maître de ma vie, je ne suis plus celui qui ordonne les choses de ma vie. Dorénavant, c'est toi mon roi, toi qui es mort et toi qui es ressuscité. Toi maintenant, tu règnes dans ma vie. » Et on pourrait se dire, mais pourquoi Paul veut-il donc être crucifié avec Christ? Pourquoi vouloir faire une chose pareille? Eh bien, ce que j'avance ce matin, ce que je vous propose de retenir ce matin, pourquoi Paul dit-il ceci? Parce que Paul a compris ce que signifie Pâques. Paul a compris ce que nous célébrons ce matin ici. Il a tellement compris qu'il nous l'enseigne, qu'il nous rappelle ces choses-ci. Il l'a compris. Et en effet, qu'est-ce que Pâques? C'est un événement majeur qui repose sur un autre événement majeur, le précédent. On a évoqué ça pour ceux qui étaient là vendredi soir. On a évoqué le lien qu'il y a entre la Pâque de l'Exode, la Pâque juive, vous savez, Pâque sans S, la Pâque, l'agneau immolé, l'agneau qui a été saigné en ce jour de la libération du pays d'Égypte et dont le sang sera mis sur les linteaux des portes, sur les montants, les linteaux des portes, ce signe de ce qu'on appelle en anglais le Passover. Et ça serait vraiment intéressant qu'on ait une version française. Nous, on est confus entre Pâques, Pâques, Pâques sans S, Pâques avec S, etc. Mais le Passover en anglais, ça dit très clairement ce qui se passe. C'est que Dieu passe par-dessus. Souvenez-vous ce qui se passe dans l'Exode. Celles et ceux qui ont sacrifié l'agneau, celles et ceux qui ont pris de son sang pour le mettre sur les portes, seront protégés dans cette nuit du jugement terrible qui tombe, où chaque premier-né de toutes les maisonnées va mourir du jugement de Dieu. Ce sang sur les linteaux des portes va faire en sorte que le jugement passe par-dessus. Cette Pâque est le fondement de l'autre Pâque, celle de Jésus-Christ. Et Paul a compris ceci. Paul, il a compris que c'est le sang de Christ qui fait que le jugement passe par-dessus et ne s'arrête pas sur sa personne. Que le jugement a été là parce qu'il a été couvert par le sang de l'agneau de Dieu qui ôte ainsi le péché du monde. Il a compris que cette grâce, parce que c'est une grâce, est réellement une grâce, lui est donnée, pas parce qu'il attend. Pas parce qu'il serait un tant soit peu mieux que d'autres. Il réalise que ce n'est pas parce qu'il est meilleur. Il réalise que ce n'est pas parce qu'il a fait de meilleures études, parce qu'il aurait eu de meilleures actions, qu'il est au bénéfice de cette grâce. Mais il a compris que cette grâce lui est donnée avant toute chose parce que Dieu l'a aimé. Je relis ce verset 20. « Je suis crucifié, dit Paul, avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. » qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Alors oui, Paul a compris ce que signifie Pâques. Il a compris ce que Christ a fait pour lui. Il a compris qu'il l'a aimé d'une façon telle qu'il est allé au supplice de la croix et qu'il a emmené dans la mort avec lui toutes ses fautes et tout ce qui peut le séparer de Dieu pour le lier définitivement dans le tréfonds de la terre et de la mort pour pouvoir ressusciter et revenir avec lui et entraîner Paul avec lui pour vivre avec lui. Et ainsi, Paul a compris ce que signifie Pâques et donc Paul veut être crucifié avec Christ pour pouvoir vivre avec Christ. Et Paul veut mourir à lui-même et donner à Christ le contrôle de sa vie. Ainsi, et enfin, toujours dans ce verset 20, la conséquence de cela, c'est que quand Paul dit « Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le résultat de ce que Paul a compris de cette Pâque a un impact dans sa vie présente. C'est là le fruit de la réalité du Christ ressuscité vivant en Paul. Sa vie a changé. Et comment sa vie a-t-elle changé? Eh bien, il a compris que Pâques, ce n'est pas juste une page d'histoire. Il a compris que Pâques, aussi véridique et historique que ce soit, ce n'est pas juste un fait de l'histoire. Il a compris pourquoi Christ est mort. Il a compris l'enjeu de la résurrection. Ce n'est pas en effet non plus... La résurrection n'est pas juste un fait de l'histoire non plus. Cette résurrection a un effet dans sa vie parce que Christ l'a racheté. Christ est maintenant son maître. Paul n'est plus le maître de lui-même. Christ est devenu son maître. Christ agit en lui par son Esprit Saint et une des œuvres de l'Esprit Saint, c'est de rendre clair son péché et ses conséquences et de le voir, l'autre œuvre de l'Esprit, c'est de le voir porter du fruit, le fruit de l'Esprit. Ce qui veut dire pour l'apôtre Paul, rappelons-nous qui est Paul. Rappelons-nous qui était Paul. Rappelons-nous qu'il était le top, le futur plus haut responsable du monde des pharisiens, docteur de la loi, le premier parmi tous, disciple de Gamaliel. Il était celui qui allait tenir les rênes du monde juif de l'époque. Il était le plus haut placé, docteur de la loi, connaissant la loi sur le bout des doigts, étant imbattable quand il s'agissait de parler de la loi et de la Bible. Eh bien, il a compris le sens donné par Jésus à la loi. Il a compris que ce que lui pensait juste est en fait tout faux. Il a compris que la loi a été parfaitement et totalement efficacement accomplie par Jésus-Christ sur la croix quand Jésus dit « Tout est accompli ». Il a compris que c'est Jésus qui peut accomplir cette loi. Il comprend alors que lui, Paul, est très éloigné de ce modèle-là, qu'il ne pourra jamais l'atteindre. Il croyait jusque-là que sa propre piété, que son héritage juif, que son engagement, que son zèle même, que son intelligence, que ses responsabilités qu'il pouvait lui donner, que son rang social et tout cela pouvaient compter sur Dieu, lui accorder quelques faveurs. Pâques lui montre que non. Pâques lui montre que tout ceci n'est rien en comparé de l'œuvre de Christ. Sur ce plan, il a compris qu'il devait passer d'une sphère d'influence à une autre, de la sphère d'influence de l'héritage qu'il a reçu en Adam à la sphère d'influence qu'il reçoit en Jésus-Christ. Ce même Paul dira dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 17 et suivant, « Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ ?» Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'étend à tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul voit maintenant, dans la loi, un miroir, pas un salut. Il voit maintenant, à chaque fois qu'il voit la loi, un révélateur de son état de fils d'Adam qui lui fait désirer, plus que toute autre chose, de devenir un fils de Dieu. Paul a compris Pâques. Mais il semblerait que les Galates n'ont pas compris le sens de Pâques. Ils se sont laissés détourner par un autre évangile, dit-il. Et il précise bien de dire, en fait, il n'y a pas d'autre évangile. Mais se sont laissés détourner par une autre approche philosophico-religieuse des choses. Ils n'ont même pas compris la Pâque juive qui pourtant ils vont célébrer avec insistance puisqu'ils vont revenir sur les fêtes de l'Ancien Testament. Ils vont vouloir absolument rester très fidèles à un certain nombre de rituels de l'Ancien Testament ici. Il semblerait qu'ils n'ont pas compris la Pâque juive parce qu'ils n'ont pas compris la place de la loi. Ils n'ont pas compris l'enjeu et ce vers quoi mène cette fête ici. Ils n'ont pas compris ce que dit Dieu par ce jour de Pâques. C'est Ligon Duncan maintenant que je voudrais citer en disant, c'est Dieu qui parle, on peut imaginer Dieu qui dit ceci à son peuple, « Mes enfants, je sais exactement qui vous êtes. Je sais exactement ce que vous êtes. Et ma grâce est totalement suffisante et efficace pour conquérir votre péché. Alors ne prenez pas la voie d'une quelconque obéissance pour votre salut, parce que justement, votre obéissance est le problème. » Ne vous fiez pas à vos cœurs. Votre cœur est le problème. Ne vous fiez pas à vos œuvres. Vos œuvres sont le problème. Ne vous fiez pas à de nouvelles résolutions. Votre volonté est le problème. Vous êtes le problème. Arrêtez de vous fier à vous-même et tournez-vous vers moi. Fiez-vous à Christ. Fiez-vous en sa grâce. Je, Jésus, je suis la solution. Voilà ce que Paul a compris de Pâques. Voilà ce qu'il dit aux chrétiennes et aux chrétiens de la Galatie et aux chrétiennes et chrétiens du monde entier et donc par conséquent aux chrétiennes et chrétiens rassemblés ce matin à Nesle. Voilà ce que lui, ancien leader de ce mouvement, le judaïsme, qui les a influencés tant, voici ce que lui dit Paul, ayant compris ce qu'on vient de dire ici. Nous, dit Paul, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les nations. Et sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus, nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. C'est ce qu'il dit donc au premier verset, verset 15 de notre texte ici. Et ce que Paul est donc en train de dire, c'est que ce qui est bon ici, qui est la lecture de l'Évangile, la compréhension de Pâques, nous aussi, Juifs, c'est notre message, c'est notre Évangile, c'est ce qu'on a besoin de comprendre et ce que l'Église de Galates était en train de perdre. Et encore, dit-il à la fin, cette fois-ci, du texte que nous avons lu, verset 21, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. » Et vous, dit Paul aux Galates, comment pouvez-vous passer un autre évangile? Comment pouvez-vous manquer Pâques? Vous qui voulez tant célébrer les fêtes, vous voulez célébrer une fête dont vous ne comprenez pas le sens, dont vous ne voyez pas l'application du sens. Eh bien, en voilà une ici de fête, là, devant vos yeux, dont le sens est accompli en Jésus-Christ. C'est l'occasion de la célébrer, de lui donner son sens. Non seulement un sens dans l'histoire, mais un sens dans la réalité de la vie telle que Paul est en train de l'écrire. Mais alors, et nous? Et nous, ce matin? Nous venons de voir que Paul a compris Pâques. Les Galates semblent ne pas avoir compris le sens de Pâques, ou en tout cas ont oublié le sens de Pâques. Qu'en est-il de nous, chrétiennes et chrétiens, rassemblés à Paris ce matin? Avons-nous compris le sens de Pâques? Je pense, j'espère, qu'à ce stade de la journée, en ce jour, on a quand même compris de quoi on parle, puisqu'on le fait depuis le début de la matinée ici, hein, et de quand on dit « il est ressuscité ». Je pense qu'on a compris ça quand même. Je pense qu'on a compris que ce n'est pas juste des œufs en chocolat cachés dans les jardins et tout ce qui s'ensuit. D'ailleurs, c'est assez impressionnant. J'ai lu il n'y a pas longtemps qu'on a oublié l'affaire des cloches. Bon, déjà, les cloches, bon, vous allez voir le fondement biblique, hein, mais bon, on a oublié l'affaire des cloches, les œufs et tout ça. Mais alors maintenant, on est passé par des dinosaures et des guitares électriques, des machins. Bon, je pense quand même qu'on a compris ce matin qu'il s'agit de Christ qui est mort et qui est ressuscité. Mais avons-nous compris? Avons-nous compris que ce n'est pas juste une page de l'histoire qu'on commémore? Avons-nous compris qu'il y a là une réalité qui touche notre vie et qui devrait toucher notre vie? Ce que Paul a compris, et qu'apparemment les chrétiennes et les chrétiens des Galates n'ont pas compris, qui nous donne l'occasion de nous questionner un petit peu, entre autres ce qu'il a compris du fait qu'il n'est plus question maintenant de se fier à lui-même, à sa science, à sa capacité de gérer les choses, même à sa capacité de gérer le monde, toute sa capacité, son bagage, son rang social, etc. Là, Paul ne dira-t-il pas qu'il le considère comme des ordures? Tout ce qui lui a donné d'avoir une existence, d'avoir une crédibilité, d'avoir un nom, d'avoir une reconnaissance, de pouvoir dire « je suis quelqu'un ». Sa carte de visite qui disait « docteur en loi », il la met à la poubelle. En disant tout ceci, certes, Ça a son importance, mais ultimement, ça ne vaut vraiment pas grand-chose. Parce que Christ a bien plus à offrir. Eh bien, que veut dire Pâques pour nous ce matin? Parce que si bien des choses sont d'une grande valeur, elles sont bien vaines, question, où est l'espérance autour de nous ce matin? Où est l'espérance lorsque nous parlons à nos voisines, à nos voisins, à nos patrons, à nos employés, à ceux qui sont autour de nous, à nos familles? Si on devait dire, l'espérance aujourd'hui, c'est quoi? Un vaccin? La santé? Le travail? La famille? Programme politique? Engagement social? ONG? Église même? Évidemment, toutes ces choses sont bonnes. Il y a énormément de bon là-dedans. Il y a de quoi faire, il y a du travail, il y a de quoi faire, mais c'est ça la perspective de la vie? C'est ça? Est-ce que Pâques, là-dedans, aurait autre chose à dire? Quelque chose de plus grand, de plus fort? Où est notre espérance? Est-elle dans cette vie seulement? Bien sûr, nous voulons tous que cette crise sanitaire se termine au plus vite. Nous voulons tous être épargnés. Nous avons tous envie de retrouver une vie normale. S'il y a une vie normale, s'il y en a une, laquelle est-elle? Mais même en tant qu'Église, je ne sais pas vous, mais qu'est-ce que j'ai envie d'avoir un jour de Pâques où après le culte, on se retrouve et on mange ensemble et on se réjouit et on a du temps ensemble, de joie, de communion, de fraternité, et ça nous manque terriblement. Certes, on attend tous cela, mais en quoi Pâques, le Christ ressuscité, peut être pour nous ce jour même où nous ne pouvons pas manger ensemble, où il y a des tas de choses qui sont dans l'incertitude et l'attente? En quoi le Christ ressuscité est-il une vraie alternative de vie? On pourrait d'ailleurs poser la question à nos frères et sœurs qui ont été mentionnés tout à l'heure par Bruno. Il y en a dans ce monde, aujourd'hui même, qui pour se réunir comme on le fait en ce moment risquent leur vie. Il y en a qui n'ont pas la liberté de culte. Il y en a qui sont persécutés pour leur foi. Il y en a pour qui il en faut trois fois rien, une simple dénonciation pour qu'ils soient mis à mort. Que veut dire pour eux l'espérance de Pâques dans un jour comme celui-là? Comment peuvent-ils rester rayonnants dans leur vie? Il n'y a plus beaucoup d'attente autour d'eux, sinon celle du Christ ressuscité. Que veut dire pour nous ce que dit Paul? Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Est-ce que ça résonne en nous ce matin? Et qu'est-ce que nous devrions faire pour que ça résonne? Est-il peut-être nécessaire qu'on réalise? Est-ce que je suis crucifié avec Christ? Est-ce que, Seigneur mon Dieu, tu es devenu mon maître? Est-ce que tu es celui qui prend, qui me conduit mes décisions, celui qui renouvelle mon cœur? Rappelons-nous aussi ce qu'on a lu en début de culte. Si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Ou qui font comme si ce n'était pas l'enjeu de notre vie? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, notre foi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les gens ne ressuscitent pas. Si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes bel et bien les plus malheureux de tous les hommes. Que change Pâques pour nous ce matin? Que change Pâques pour nous? Réalisons-nous que Christ est ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité, et que cela veut dire que s'il est ressuscité, nous avons une perspective dans notre existence, une perspective sur le long terme, une perspective aussi sur le présent. Que change Pâques pour nous? Sommes-nous en Christ, mort en lui et ressuscité en lui? Deux points donc à retenir. Deux points sur lesquels je nous interpelle, et clairement je fais partie des interpellés. Deux points ce matin que nous voulons voir. Il y a la perspective d'une vie éternelle. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on l'attend à l'idée d'être ressuscité avec lui? Ce que nous vivons en ces jours est un investissement sur l'avenir. Est-ce qu'on voit nos décisions comme telles? Les épreuves même, les épreuves que nous traversons sont passagères. J'ai envie de dire, l'image vaut ce qu'elle vaut, mais souvenons-nous quand on était étudiant. Souvenons-nous quand on devait investir dans des études et des labeurs et que je pense que la plupart d'entre nous, on le faisait avec l'idée de dire, il faut que je passe mon examen. Il faut que je réussisse mon examen. Mais à quoi il sert cet examen? Sinon, à faire en sorte qu'il y a toute une vie derrière cela. Et ce que j'ai pu apprendre, et ce que j'ai pu être reconnu, c'est l'idée de dire, je peux le vivre. Moi, d'ailleurs, ça a été pour moi la clé. Vous devez savoir, je ne suis pas grand intellectuel. J'ai dû refaire une année exprès pour mon grec et mon hébreu, parce que j'avais tout raté pendant les examens ici. Mais ma perspective d'étude, ce n'était pas le diplôme. Ma perspective d'étude de théologie, c'était de dire, le jour où je serai pasteur, je veux que ça me serve. Alors tous les cours, c'est pas compliqué, tous les cours qui n'avaient pas une application pratique, je les ai pas retenus. Mais tous les cours, quand je pouvais voir l'application pratique de ce que ça servirait jusqu'à ici, maintenant, ça je les ai retenus parce que je me donnais cette perspective de dire, Seigneur, si tu m'appelles à être pasteur, je veux que ça serve ce que je suis en train d'apprendre ici. Ne voyons-nous pas que la vie de ce que nous faisons maintenant, y compris nos épreuves, c'est en fait une préparation à quelque chose qui va durer pour toujours. J'ai entendu un jour un pasteur donner l'image de dire, vous savez ce que c'est l'éternité? Il le disait dans un autre contexte, mais je vais le dire aujourd'hui dans cet espoir-là. Il dit, imaginez, alors il ne le disait pas comme ça, mais je l'adapte. Imaginez quand on va sortir de la chapelle de Nesle, on va arriver rue de Nesle, d'accord? Si vous regardez par terre, au lieu de regarder les mégots et choses, regardez simplement le goudron. Le goudron qui est constitué de petits graviers enrobés de goudron, d'accord? Imaginons qu'un de ces graviers, c'est notre existence, notre vie sur Terre. L'éternité, c'est le reste de la route qui part de la route de Nesle et qui part et qui sort de Paris et qui sort de la France et qui va au plus loin possible et imaginable. Si chaque grain est ma vie sur Terre, l'éternité, c'est la suite. Ça veut dire que ce que je vis aujourd'hui, si mon espérance est dans cette vie, ça veut dire que je considère que mon espérance est dans ce petit gravier de rien du tout et il y a pourtant l'éternité devant moi. La réalité de Pâques, c'est de dire ce qui est difficile aujourd'hui, les combats que je dois mener, les choix que je dois faire, n'ont pas juste un enjeu dans le présent immédiat. C'est un véritable investissement pour l'éternité, dont je verrai déjà les fruits dans cette existence. Mais il y a un long chemin devant nous et c'est plein d'espérance. Mais il y a aussi, deuxième point, une perspective de la vie en Christ, avec Christ, dès aujourd'hui. Pâques, ça s'applique dès aujourd'hui. Il nous a aimés tant qu'il est mort pour nous. On voit la motivation de Paul. Il a compris ce message de Pâques. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je suis crucifié avec Christ. Ça veut dire que dès maintenant, il ne se sait pas seul. Dès maintenant, il sait qu'il peut confier sa volonté en la sienne, qu'il peut confier sa vie dans la sienne. Et dès maintenant, dès le présent, tout de suite, immédiat, ça transforme nos vies. Il sait également que son péché n'a plus de poids. N'a plus de pouvoir, ne peut plus le retenir. Même s'il est encore dans sa tête et dans sa mémoire, il peut dire « Je suis lavé, je suis purifié, je suis pardonné, je suis libéré et je peux vivre une existence nouvelle sur la réalité du Christ ressuscité. » Pâques, c'est la victoire sur ce qui nous sépare de Dieu, sur le péché et sur la mort. Paul était investi dans le monde pour le bien du monde. Mais dans son investissement, il s'est rendu compte de la vanité de ce qu'il était en train de faire. Il a découvert que toutes ses études, que tout son combat, que tout son militantisme, que tout ce qu'il pouvait faire, qu'il croyait bon pour ce monde, était en fait d'une vanité totale. Et il a réalisé que tout cela devait perdre toute la valeur qu'il lui avait donnée. Réalisant la valeur en ce jour de Pâques, en Jésus-Christ. Et c'est devenu, enfin Saul est devenu Paul. Le Paul qui a donné les bases et les fondements à l'Église de Jésus-Christ. Alors je termine avec une dernière citation d'un de mes auteurs favoris, Pasteur Lloyd-Jones. La mort n'est pas la fin de tout. L'homme possède une âme impérissable en lui. Si je possède une âme, alors je ne vis pas simplement pour le manger et le boire et pour les soi-disant plaisirs du monde. Mangeons, buvons, amusons-nous, car demain nous mourrons. Nous vivons dans un monde plein de troubles. Que pouvons-nous faire? La réponse de la Bible consiste à dire que l'homme ne peut rien faire par lui-même. Tous ses efforts, ultimement, s'avéreront uniquement être une grande déception pour lui, parce qu'il n'appartient pas à l'homme d'y parvenir par lui-même. L'homme a besoin d'être sauvé. Il lui faut être libéré de l'esclavage des circonstances du monde, de la chair et du diable. Il doit être affranchi par Dieu, pour Dieu, et afin d'aller vers Dieu, pour trouver son repos et sa paix dans les bras divins. Comment cela se produit-il? Paul dit « Je sais en qui j'ai cru ». L'apôtre parle de notre Sauveur Jésus-Christ qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est sa Pâque. Il est ressuscité. Seigneur, merci. Merci d'être venu. Merci d'avoir été l'unique homme, fils de Dieu, pleinement incarné, pleinement homme. Merci d'avoir pris la loi et d'avoir fait de la loi une perfection totale, faisant de toi le seul et l'unique agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci d'avoir accepté ce sacrifice ultime, qui est le seul et unique recevable. Le seul par lequel nous pouvons, nous, ce matin, nous identifier en nous disant « Parce que toi, tu as payé le prix. Toi seul peux le payer pour nous. » Merci Seigneur, parce que tu as pris avec toi, dans la mort, nos fautes, nos imperfections, nos ratés, nos orgueils, nos ambitions. Tu as pris tout cela. Tu l'as mis dans un énorme sac et tu l'as noué de chaînes dans le fin fond des soubassements. Et tu as vaincu cela. Tu es revenu à la vie. Tu as montré que tu pouvais dépasser les toutes puissances de ce monde et du monde du mal. Tu as montré que absolument rien ne pouvait te retenir. Et que non seulement rien ne pouvait te retenir, mais que maintenant tu es revêtu de toute la puissance nécessaire pour venir nous chercher là où nous sommes et pour nous donner de vivre de ton pardon, de ta vie, de ta résurrection. Et une résurrection qui commence par le fait que tu fais de nous de nouvelles créatures. Seigneur, nous voulons célébrer en ce jour non seulement le fait que ceci s'est passé en ce jour de Pâques, il y a 2000 ans, célébrer le fait que cela se passe aujourd'hui dans nos vies. Et Seigneur, ce matin, nous nous tournons vers toi. Peut-être avons-nous jamais réalisé à quel point cette fête de Pâques vient jusqu'à nos cœurs, jusqu'à nos pensées, jusqu'au plus profond de nos âmes ce matin. Et Seigneur, peut-être est-ce pour moi l'occasion ce matin de te dire, je veux être crucifié avec toi. Prends-moi, prends mon moi, prends tout ce que je garde en moi, le contrôle de ma vie, les ambitions de ma vie, prends-les dans tes mains et emmène-les là-bas au fin fond, du fin fond, et lis-le à jamais, parce que maintenant je veux vivre pour toi. Peut-être, Seigneur, n'ai-je jamais fait cette prière et je veux la faire ce matin. Prends ma vie, fais-en quelque chose en toi, de façon à ce que tu vives en moi. Et Seigneur, donne-moi aussi, si j'ai compris cela, donne-moi de voir en quoi ce que je vis aujourd'hui, en cet instant, dans le reste de cette journée, dans la semaine qui vient, dans ce temps éprouvant, ce temps où nous ne savons pas vraiment ce que sera demain. Seigneur, est-ce que je peux partir de là ce matin, sachant que c'est dans tes mains que ma vie est? Sachant que ce que je décide, c'est dans tes mains. Et sachant que tout ce que je peux faire dans cette vie, dans cette existence, n'est qu'un investissement dans le royaume, conduit par l'œuvre de ton esprit en moi. Est-ce que je peux ainsi réaliser, Seigneur, que ma vie n'est plus faite de bois et de paille, mais par ta grâce, elle est faite de pierres précieuses, d'or et d'argent. Et quand le feu brûlera, c'est ce qui restera. Donne-moi, Seigneur, de voir combien, peut-être, il y a tant de choses dans mon existence qui ont tant de valeur aux yeux du monde et qui ne vaut rien d'autre que de la paille et du bois. Donne-nous, Seigneur, de voir Pâques ce matin comme un vrai investissement dans nos existences. Un investissement parce que tu es ressuscité, que tu es vraiment ressuscité et que ça nécessite de nous donner à toi et de voir à quel point se donner à toi, c'est vraiment une bonne idée. Alors Seigneur, nous voici ce matin. Prends-nous là où nous sommes. Ne nous laisse pas là où nous sommes. Donne-nous de cheminer dans ta mort et ta résurrection et de pouvoir d'autant plus célébrer que tu es ressuscité, que tu es vraiment ressuscité. Amen. Ce matin, nous allons avoir la joie et le privilège de célébrer la scène. Pour ceux qui sont nouveaux parmi nous, avant la pandémie, nous faisions la scène tous les dimanches. Maintenant, pour les raisons sanitaires, on la fait rarement, donc c'est un fait exceptionnel et on l'a fait avec des nouvelles mesures. Tout est prêt, tout a été posé ici, tout a été préparé avec masque et gants. Et donc au moment où nous allons venir, nous allons faire comme nous l'avons fait lorsque nous avons eu le culte avec les baptêmes. Eh bien, nous allons venir les uns derrière les autres, avec des distances qui se respectent. Raph sera là pour nous donner un morceau de pain. C'est pas nouveau comme pour vendredi soir, un pain sans levain, préparé avec amour par Carole. Et les coupes qui sont là sont pré-remplies. Donc vous en prenez une. Pour ceux qui veulent du jus de raisin, signalez-le à Raph et il vous dira où est-ce qu'il est. Donc il y a possibilité d'avoir jus de raisin ou vin. Alors ça c'est pour l'aspect pratique. Maintenant, nous voulons nous rappeler que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en les entendant, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire. De même, il prit la coupe. Et il est clair que la coupe ne ressemblait pas à celle-ci. Mais il prit la coupe et la donna à ses disciples en disant, tenez, prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui a été versé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Rappelons-nous ce matin que ce repas auquel nous sommes invités est en lien avec le repas de la Pâque juive. C'est un moment de célébration, c'est un moment de fête, c'est un moment où nous voulons nous souvenir ce que Dieu a fait pour nous libérer de l'esclavage de nos fautes. Prendre ce repas, donc ce matin, participer à ce repas, c'est rentrer dans cette célébration où nous voulons nous rappeler que Christ est notre Pâque, qu'il est venu, qu'il a donné sa vie, qu'il a enfoui nos fautes avec lui, qu'il est ressuscité et qu'il nous invite à vivre la résurrection avec lui. Prendre cette scène ce matin, c'est nous rappeler cela. Mais pas que. Prendre cette scène ce matin, comme participer à ce repas de l'Exode, c'était avec une perspective, la perspective d'entrer dans une terre promise, la perspective que plus tard, l'Évangile s'accomplirait en Jésus-Christ et que Jésus-Christ, le Messie, le Roi, allait faire tout ce qu'allait être nécessaire pour s'acheter un peuple, pour se racheter un peuple et pour le conduire maintenant jusque dans l'éternité. En prenant ce repas ce matin, en participant à ce pain et à ce vin, nous entrons dans ce signe qui nous est donné de l'Alliance où Dieu s'engage pour dire « Je m'engage à vous préparer une place » et en prenant ce pain et ce vin, je réponds en disant « Me voici Seigneur parce que je vais là où tu m'engages. » mais pas que. Prendre ce pain et ce vin également, c'est nous joindre au propos de l'apôtre Paul ce matin. Et c'est de dire, je suis crucifié avec toi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Prendre ce pain et ce vin ce matin, c'est dire, voilà ce que j'ai entendu, ce que j'ai compris ce matin, m'interpelle. Toi m'interpeller. Peut-être ce matin, je me dis, oui, bon Samuel, c'est bien gentil. J'attends les œufs au chocolat cet après-midi. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais j'ai fait un peu d'humour, mais sérieux. Peut-être on se dit, ouais, demain. Je sais très bien ce que ça veut dire, Seigneur. Je sais très bien qu'il y a des choses dans ma vie que je dois te donner. Je sais très bien qu'il y a des choses qui ne vont pas. Je sais très bien que ce que tu me demandes ici va trop loin et je n'ai pas envie de le faire. Ça veut dire qu'en prendre ce pain et de boire à cette coupe ce matin, si c'est le cas, serait de l'hypocrisie. Serait quelque chose de faux. Serait quelque chose qui me met en porte-à-faux avec le Dieu de l'Alliance qui s'est engagé pour moi. Et j'espère que ce n'est le cas pour personne, parce que ce que cela veut dire, c'est que peut-être en effet, je vois que je suis en porte-à-faux. Peut-être en effet ce matin, je vois qu'il y a un problème dans ma vie, peut-être même 10. Et peut-être je vois que ce matin, j'ai besoin de voir Christ ressuscité agir dans ma vie. J'ai besoin de voir une transformation et je la veux, cette transformation. Je veux répondre, Seigneur, en disant, je ne suis pas capable de le faire. Alors viens en moi et fais-le en moi. Si tel est le cas, prendre ce pain et ce vin est un acte de foi auquel on est invité de répondre. Parce que cela veut dire que Christ est vivant. Il est ressuscité, n'est-ce pas? N'est-il pas vraiment ressuscité? Eh bien, le Christ ressuscité ici est là, non pas dans ce pain et dans ce vin en véritable chair et en véritable sang. Nous ne croyons pas en cela. On n'a pas besoin de croire en cela. Parce qu'on croit qu'il est là, avec la présence même de la troisième personne de la Trinité, par l'Esprit Saint. Et qu'il est là en disant, je vous garantis que mon Fils est bel et bien mort pour toi. Qu'il est bel et bien ressuscité. Et je vous garantis qu'il siège maintenant à la droite du Père. Et je vous garantis que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, se fera. Je vous garantis que si tu t'avances par la foi, je suis avec toi. Donc prendre cette scène ce matin signifie faire de Pâques. En effet, j'ai compris que Christ est mort et qu'il est ressuscité il y a 2000 ans. Je comprends qu'il y a une promesse devant moi sur laquelle je puis m'appuyer. Mais je comprends aussi qu'aujourd'hui, ça signifie répondre à l'engagement que Dieu a pris par le mien. Alors prions. Seigneur, merci de ce que tu as fait, de ce que tu prépares et de ce que tu fais maintenant. Merci Seigneur de nous donner ce signe de ton alliance, signe de ton engagement, nous interpellant à venir vers toi par un engagement de foi. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, que la foi, c'est de croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Peut-être nous doutons ce matin que quelque chose peut vraiment changer en nous. Mais Seigneur, nous voulons en effet être crucifiés avec toi et ressuscités avec toi et croire que tu peux vivre en nous, changer les choses, nous donner de voir notre vie changer jour en jour, et de nous voir préparés pour vivre l'éternité avec toi. Nous voulons croire aussi, Seigneur, qu'il n'y a pas un seul jour du reste de notre existence qui se vivra sans toi. Alors, Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, mais nous voulons répondre à ton appel et y répondre en prenant, participant à ce repas auquel tu nous invites. À toi en soit la gloire. Je vous invite donc maintenant à venir un ou deux par un. Si vous êtes en famille, vous pouvez venir en famille ou en couple et donc de prendre des éléments et de retourner à votre place et nous prendrons les éléments ensemble maintenant. On peut commencer par ce côté et puis petit à petit on va aller. rappelle, si vous voulez du jus de raisin, faites la demande auprès de Raph. Est-ce que tout le monde est servi? C'est pas comme vendredi, on a manqué. Voilà, il y a ce qu'il faut. Très bien. Levons-nous. Le Seigneur Jésus, prenant du pain, dit: tenez, prenez, mangez. Ceci est mon corps. Mangez-en tous. De même, il prit la coupe et dit: ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. Buvez-en tous. Et restons debout pour chanter ensemble le chant qu'il fallait chanter aujourd'hui. À toi la gloire. et de bénédiction en ce dimanche de Pâques. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient sur vous tous. Il est ressuscité.
Il est vraiment ressuscité.
J'ai pas entendu. Il est ressuscité.
Il est vraiment ressuscité.
Joyeuse Pâques. Bon dimanche à tous.